Le silence des petits papiers, chapitre 34. Georges poussa la porte. Il savait qu'il venait là pour la dernière fois. Il s'était décidé à manger un de ses ultimes poulets, sauce pili-pili, réalisé par la tenancière, connue par les touristes sous le nom de Marilyn de Baya. Les autochtones ne fréquentaient guère son établissement. La personnalité excentrique de la patronne ne les amusait guère. Georges D'Assouza venait de fêter ses 44 ans. Il avait perdu ses cheveux depuis belle lurette et sa bedaine laissait supposer qu'il s'agissait d'un bon vivant. Son travail l'obligeait souvent à trinquer à droite et à gauche. Il assurait la couverture d'une zone étendue de l'Algarve. Ce coin retiré du littoral lui convenait. Il était très attaché aux traditions et coutumes. Ici se perpétuait la vie d'antan. Après un bref passage à l'établissement thermal, il fallait bien parler de sa rénovation et de l'apport de cette activité à la région, il se dirigea vers le vieux village. En ce début d'été, les vacanciers et les curistes n'avaient pas encore envahi les routes et les ruelles. Il pouvait profiter du spectacle de la nature en toute quiétude. L'odeur d'épinède lui enchantait les narines. Plus loin, les cistes, les lavandes et les marguerites l'éblouissaient. Ainsi était fait son quotidien. Il s'en trouvait le plus heureux des hommes. Il s'essoufflait dans la pente abrupte reliant le parking à la partie haute du village. Il reprit sa respiration devant l'église. Sculpture du portail de style manuelin ne l'inspirèrent guère. Il languissait de se poser chez Marilyn. Le soleil s'ajoutant à l'effort, il suait à grosses gouttes. Quelques verres de vin frais lui apporteraient le meilleur réconfort. À l'image de ses concitoyens, il n'avait jamais fréquenté cet endroit. Ce n'est qu'en apprenant la fin prochaine de cette aventure qu'il se décida à faire un papier sur une histoire hors du commun. Marilyn s'apprêtait à boucler l'ultime étape d'une aventure de près de 50 ans. 50 années à recevoir les routards de la terre entière, à leur faire passer un moment inoubliable en sa compagnie. Tout ça, les villageois ne l'avaient pas vu. Elle était passée dans leur vie comme une étoile filante. Elle s'était fabriquée un personnage faisant fi de la critique des mégères en mal d'amour. Ces grenouilles de bénitier lui vouaient une haine féroce. Son excommunication était prononcée depuis longtemps. Il faut dire qu'elle ne faisait rien pour arrondir les angles. Ses tenues excentriques, ses décolletés plongeants et son maquillage outrancier concouraient à cette vindicte populaire. Seuls les hommes lui trouvaient un charme indéniable. Il n'osait le dire de peur de représailles de la part d'épouses jalouses. En d'autres temps, la lapidation aurait été son sort. Georges réfléchissait à la fermeture prochaine. Il était persuadé qu'elle ne s'en remettrait pas. Ça signifiait que le mot fin ne s'appliquerait pas qu'au restaurant. Il avait connu des gens de cette trempe, des passionnés. Cela tenait par l'investissement permanent dans ce qui faisait leur vie. Passer la main était irréalisable. Ils disparaissaient, happés par le trou noir de l'oubli. Marilyn ne dérogeait pas à la règle. Elle vivait probablement très mal cette rupture. Encore quelques pas, quelques enjambées à transpirer le soleil d'été par tous les pores. Le voilà devant la porte tapissée de petits papiers. Il n'avait pas souvent franchi le seuil. Pourtant, combien de fois était-il passé devant la vitrine? Combien de fois avait-il lu les papillons collés contre, empêchant de distinguer l'intérieur? Il se demanda ce qu'il adviendrait de tous ces billets rédigés dans toutes les langues. Cela aurait mérité de figurer en bonne place au musée municipal. Malheureusement, la réputation sulfureuse de la destinataire de ces mots ne plaidait pas pour une telle éventualité. Marilyn chercha un acquéreur capable de poursuivre son aventure dans des formes similaires. Quelques farfelus se présentèrent. Aucun n'eut son aval. Il paraissait évident qu'en cherchant la perle rare, elle reculait d'autant son passage vers le néant. Elle sentait la nécessité d'arrêter, mais ses tripes lui disaient non. Il y avait 5 ans que l'affaire était à vendre. Un événement triste accéléra sa prise de décision. Son compagnon des bons et des mauvais jours venait de s'éteindre, rongé par un mal implacable. Une lueur de plus venait de disparaître. Son avenir s'assombrissait chaque jour davantage. Elle compensait son teint blafard par un maquillage excessif. À croire que son fournisseur en rouge à lèvres et fond de teint l'approvisionnait en grande quantité. À son âge, elle ne montrait plus sa poitrine généreuse, tombant inexorablement de plus en plus bas. Elle se montrait en col roulé et pantalon fuseau. Sa silhouette, dans le halo de sa gargote, ne manquait pas de cacher. Georges actionna la poignée et poussa la porte. Cette dernière s'entrouvrit de quelques centimètres. Il mit la résistance de lui sur le compte de la vétusté. L'usure des milliers de frottements des gonds était l'explication la plus plausible. Il insista, poussant avec sa bedaine. La porte résistait toujours, mais il gagna centimètre après centimètre. À la 5e poussée, il constata un peu plus de souplesse. L'entrebâillement fut suffisamment large pour lui, il pénétra à l'intérieur. Aucune lumière n'éclairait les lieux. Il avança d'un pas prudent. Il buta contre un obstacle. Connaissant la configuration de la salle, le sol aurait dû être libre juste avant d'aborder une marche. Son œil commençait à s'habituer à l'obscurité lorsqu'il glissa et s'affala de tout son long sur ce qui ressemblait à un corps. Il s'était instinctivement protégé de ses deux mains pour amortir sa chute. Elles étaient poisseuses. Georges n'aimait pas avoir les mains sales. Il s'essuya sur son pantalon avant de prendre un briquet dans sa poche. Il s'employa à plusieurs reprises avant d'obtenir une pâle flamme. C'est à ce moment qu'il regretta d'avoir poussé la porte trop fort. Il aurait préféré ne jamais pénétrer dans le domaine de la mort. La clarté vacillante lui permit de distinguer ce qui entravait le bon fonctionnement du battant. Marilyn gisait dans une mare de sang. Sa première réaction fut de vomir. Il se précipita dans la rue, se dirigea vers une bouche d'égout et déglutit. Ses pas laissèrent une trace rouge, brun, sur les pavés. Par chance, personne ne l'aperçut plié en train de vomir. Il se ressaisit vite. Son instinct de journaliste prit le dessus. Il retourna dans le restaurant et chercha les interrupteurs. Il réussit à allumer des lampes à la lumière blafarde. Elles lui permirent de se mouvoir sans buter sur un obstacle. Il décrocha son téléphone mobile et appela son camarade d'enfance, l'inspecteur Camino. En attendant l'arrivée de la police, il regarda de plus près la victime. Le spectacle de Marilyn, baignant dans son sang, le toucha. Il considéra qu'elle avait réussi sa sortie. Elle était morte sur la scène. C'était le rêve de la plupart des gens de théâtre. À sa manière, elle faisait partie de ce monde-là. D'autres détails lui apparurent. Autour d'elle, des guirlandes de Bristol étaient disposées. Le meurtrier s'était évertué à l'entourer de ce qui avait fait sa fierté pendant tant d'années. Sa chevelure blonde décolorée, avec des cheveux blancs à la racine, garnie de sang, lui donnait un air pathétique. Elle venait de tomber de son piédestal. Elle n'était plus qu'un cadavre en attente de décomposition. L'inspecteur Camino arriva toute sirène hurlante. Il descendit de voiture, accompagné du docteur Mourinho. La première phrase du policier fut de dire « Adieu, poulet pili-pili ». Il retourna aussitôt vers le véhicule. Il en ramena une puissante torche. Dans cette lumière blanche, tout semblait irréel, trop inondé par la puissance halogène. Georges relata ses faits et gestes depuis son arrivée. Camino lui demanda s'il était sorti. Il était intrigué sans doute par les traces de pas ensanglantées sur les pavés. Il avoua sa répulsion et son besoin de rendre proprement dans la bouche d'égout. Le médecin se pencha vers la victime. Il souleva une guirlande posée sur la tête de Marilyn. Elle serpentait du sommet du crâne au bas de sa poitrine. Ils purent constater que la pauvre femme avait été égorgée. Georges examina quelques billets disséminés autour de la scène du crime. Certains, rendus illisibles par le sang, l'intriguèrent. Mais après tout, ce n'était pas lui le policier.